I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui m'a nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et je suis particulièrement contente de partager avec vous une nouvelle histoire d'entrepreneuse de la restauration. La maman de l'épicerie L'Idéal à Marseille, aka Julia Samut.
J'ai ouvert l'endroit que j'avais dans ma tête, quoi. Mais c'est pas, je me suis pas dit, tu vois, ça c'est une bonne idée, je pourrais faire comme ça. Non, ça c'est vrai, pas du tout. Mais c'est aussi un art de vivre, cette forme d'épicerie-là. C'est tout ce qu'on trouve dans toute l'Italie, par exemple. Si je dois comparer, enfin voilà, c'est exactement ça. C'est cette folie du déjeuner où d'un coup il y a une ambiance là qui monte, les banques froides avec les jambons et les fromages, t'as envie de tout goûter. Ouais, ça, c'est ça qui m'inspire. Et cette fête.
La cuisine et Julia, c'est une affaire de famille. Elle a grandi dans un restaurant étoilé avant de devenir journaliste gastronomique pour le Fooding, entre autres, et de passer de dénicheuse de bonnes adresses à dénicheuse de bons produits. Son idéal, ouvert en 2017, est un bonheur d'épicerie, celle dont elle rêvait et nous aussi, et qui déborde à craquer de ses meilleures trouvailles. Plus qu'une échoppe, c'est un vrai lieu de vie phocéen rempli de la joie de vivre de Julia, où elle transmet avec une passion communicative ses connaissances encyclopédiques et le lien très organique qu'elle entretient avec les produits. Dans cet épisode, Julia parle avec son accent chantant d'indépendance, d'art de vivre et de poutargue. Bonne écoute. Bonjour Julia.
Bonjour Julie.
On a été collègues et consoeurs au Fooding avant que tu passes de l'autre côté de la restauration, enfin de l'autre côté la plume, non, de l'autre côté du comptoir.
Du comptoir, ouais, c'est ça.
Du coup, t'as réalisé le rêve peut-être de beaucoup de journalistes, non?
Ouais, peut-être. En fait, moi, je voulais vraiment pas justement repasser de l'autre côté. Parce que j'ai connu le métier par le métier et pas par l'écriture, en fait. Donc c'était pas, je suis retournée exactement là d'où je viens, quoi.
C'est assez, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est assez fascinant pour les gens qui sont restés de l'autre côté du comptoir, des gens comme moi. Mais t'as trouvé ta place là aujourd'hui.
Ouais. Bah c'est exactement ma place. Je c'est la chose que je sais le mieux faire, certainement, recevoir les gens et parler de produits et tout ça. C'est ça mon métier, en fait. Je suis née là-dedans. Ça, j'ai pas besoin de comment dire, de me concentrer, quoi.
T'as retrouvé ta place alors?
Ouais, exactement. Ouais. J'étais journaliste agréablement, mais celle-là, c'était pas ma place, c'est sûr.
T'as grandi dans un restaurant, la Fainière à Lourmarin,
oui.
Où ta maman, Reine, avait une étoile et était au fourneau, et ton père en salle.
Oui.
La cuisine, c'est vraiment toute ta vie?
Oui, exactement. Ben, on pense qu'à ça dans cette famille. Maintenant, ma mère a repris la partie de la cour de ferme. Là. La Fainière, elle existe en plusieurs endroits. Et c'est ma sœur qui est au fourneau. Et tout ça, en fait, c'est... Que moi j'ouvre cette épicerie, que ma sœur reprenne la Fainière, tout ça sur le papier il y a 20 ans on l'aurait jamais imaginé, mais on est tellement né là-dedans que voilà, c'est le destin joyeux.
C'est ça, ce que
j'ai totalement joyeux, hein.
J'allais te demander si ta destinée familiale t'avait rattrapé.
Oui c'est complètement ça. Ouais j'ai pas lutté contre ça, en fait, au final.
T'as un peu lutté, mais
j'ai lutté une partie. J'ai fait ma crise d'ado et en fait, j'ai laissé revenir les choses. Mais c'est jouissif, hein.
C'était comment de grandir dans un restaurant?
Ah, c'est génial. Mais en fait, cette adrénaline que j'ai vécue toute mon enfance et jusqu'à ce que je parte à la capitale, bah ça, c'est vraiment mon éducation, en fait. Le partage avec les clients, être toujours avec des gens, parler de tout ça, mais tout à fait naturellement, hein, c'est pas une posture, en fait, hein, on reçoit les gens au restaurant, voilà, on reçoit des producteurs, on reçoit toute la journée, quoi. Mais ça, c'est exceptionnel. Et j'ai retrouvé ça parce que je voulais vraiment pas faire ce métier, donc. Et quand j'ai ouvert l'épicerie, et puis moi j'étais journaliste donc, mais quand même très timide, très 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 timide. Je sais pas si toi tu t'en souviens, mais moi en tout cas je me souviens que quand je faisais ce métier à Paris, j'étais pas exactement à ma place parce que j'étais pas très à l'aise. J'ai ouvert l'épicerie, la porte de l'épicerie rue d'Aubagne, ben tout ça là, cette timidité et tout, elle est partie. Donc c'est sûrement ce que ça signifie sûrement, c'est que j'étais enfin à la bonne place. Mais surtout l'adrénaline de ce métier. Oh ah, mais tous les jours, je me dis, et on se le dit avec l'équipe, mais comment ils font les autres, quoi? C'est quoi leur vie? C'est comme monter sur scène, ça doit être comme faire du théâtre, j'en sais rien, mais c'est génial. Et surtout quand c'est une histoire de groupe. Ça, c'est exceptionnel. Je voudrais jamais m'arrêter de faire ça.
Et quand t'étais enfant, enfin, vous avez grandi dans le restaurant, vous viviez sur place?
Oui.
Du coup, t'étais tout le temps dans
ben
le...
nous, on vivait une histoire place, d'équipe, parce qu'on vivait avec tous les gens qui travaillaient là, hein, dans un village comme Lourmarin, on vit tous ensemble, hein, 1000 habitants, c'est sûr. Et puis oui, on vivait au rythme des services, hein, bien sûr. Ouais. Et puis moi, j'ai travaillé très très jeune au resto. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, mais comme tout enfant de commerçant, en fait. Hein.
Tu faisais un peu de service, un peu de plonge.
Non, j'ai fait la plonge en premier. Et j'étais experte. J'ai la rangite, c'est normal. Et après j'ai fait. J'étais un peu dans l'ombre, moi. J'étais pas trop au service, tout ça. Hein. Je faisais l'accueil, surtout ce genre de truc. Mais ouais, j'adorais. J'ai jamais fait de cuisine avec ma mère.
Pourquoi?
Je la regardais. Elle me faisait trop peur. J'aurais jamais osé demander. Non, je la voyais envoyer les services. Je me disais, mon Dieu, mais elle peut pas envoyer une table de 8 en même temps qu'une table de 4, une table de 2. Je vais mourir, j'ai peur. Je la regardais à travers la fenêtre et je me disais, elle doit être aidée par une force suprême. J'ai toujours pas compris d'ailleurs comment les cuisiniers, même quand je vois ma sœur envoyer toutes ses assiettes et tout, je me dis, oh, putain, comment ils font pour envoyer des cuissons aussi parfaites à autant de monde en même temps? C'est dingue. Mais ouais, c'est un métier, hein, c'est pas une blague.
Pourquoi t'as pas voulu faire ce métier ado?
Si je faisais ce métier, c'était forcément que j'allais reprendre l'auberge. Mes parents me l'ont jamais demandé, mais c'était ça en fait. En fait, j'ai besoin d'être complètement indépendante, moi. Donc, ce que fait ma sœur aujourd'hui, de reprendre l'auberge et de faire ce qu'elle est elle-même dans l'histoire de la famille et tout, moi, ça, je suis pas capable.
Ça a été possible aussi peut-être parce qu'elle est partie et pour revenir.
Oui, peut-être. Oui, et puis parce qu'on est différentes, quoi.
Oui, oui.
Tout simplement.
Oui,
hein. Aussi. Ça a un caractère et tout ça. Moi, je suis je suis très très calme, mais en fait, je suis très très dans ma tête, quoi. Je suis très indépendante. j'ai pas besoin de le dire, par contre.
T'avais besoin de partir.
Je fais ma route, ouais. Avec tous mes fondements et tout ce que constitue cette culture, cette famille, tout ça, hein, dont j'ai complètement besoin. Mais j'ai besoin de faire mon truc, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'y ai certainement jamais pensé. Et puis je me disais, non mais quelle engeance ce métier. T'as pas de vie, tu penses qu'à ça, tu fais que ça. Voilà, donc je voulais pas vivre ça. Je me disais, c'est une bonne feinte en fait, journaliste, tu fais rien, quoi. Enfin moi déjà. Pendant toute mon histoire de métier de journaliste, j'avais l'impression que j'étais touriste, hein, je veux dire, dans ma famille. Tu viens en demi-journée déjà, tu fais qu'un service si tu veux bien. Enfin, tu vois, à un moment, tu t'arrêtes de bosser, quoi.
Mais tu veux dire à travers le regard des autres?
De ma
famille.
Le
regard de ta famille.
Ouais, ou des restaurateurs. J'ai toujours vu les restaurateurs comme des warriors, quoi. Donc voilà, donc je me disais non, moi je vais faire des enfants, m'occuper de mes enfants, avoir une vie normale, rentrer à 18h30, un truc comme ça.
T'en avais souffert?
J'en ai pas vraiment souffert parce que j'aimais bien être seule et tout, donc j'étais hyper indépendante, on avait notre vie avec notre sœur et avec ma sœur et tout, mais en même temps je me disais
c'est pas l'idéal.
Ouais, pour des gosses, c'est difficile, quoi. J'avais envie d'être une mère qui s'occupe de ses enfants à 2000%. Bon, ben, résultat, hein, je fais un peu la même que ma mère, en fait. Mais ouais, en fait, c'est beaucoup plus joyeux, cette vie-là, que celle que j'avais avant d'être journaliste et de d'avoir
et de t'occuper
mes petits...
tes enfants.
Ouais, non, en fait, non, c'est pas moi, ça. C'est pas moi. Mes enfants, ils sont à l'épicerie aussi. Voilà, ça va bien.
Ils sont hyper contents parce qu'ils te voient contente. Et
ouais, exactement. Ouais, ouais.
Mais tu voulais faire quoi alors? Enfin, tu voulais être journaliste?
Bah, en fait, j'ai été journaliste par... Moi, j'ai fait des études de droit et c'était vraiment l'enfer pour moi, ça.
Mais t'avais choisi?
Non, je suis c'était pour rester à Paris. En fait, j'ai fait d'abord une école de management hôtelier pendant un an, une école américaine, un enfer, avec des QCM et des trucs à la con. Et au bout d'un an, j'ai dit à mon père, viens voir là, parce que je crois qu'on s'est un peu planté de sujet là. Et c'est ma mère qui m'avait choisi cette école, bilingue, tout ça. Donc au bout d'un an, j'ai arrêté, mais par contre, je voulais absolument pas redescendre. Et donc, j'ai réussi à rentrer à la fac de Sceaux. À la fac de droit de Sceaux, pour une lourmarinoise qui part tous les matins du 12e arrondissement RER pour aller à Sceaux, déjà, c'est un enfer, quoi. Tout ça pendant 3 ans. Et heureusement, ce qui me tenait, c'était que je réfléchissais, je me souviens, pendant les 4 heures de cours du matin, à la sauce des pâtes que j'allais faire à midi en rentrant. Ça, c'était mon truc. Donc voilà, ça m'a tenue 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai dit, non, moi, je peux pas rester là, je vais mourir. Et il y a une copine qui me dit je vais présenter l'école de journalisme l'ESJ à Tolbiac, viens
on y va.
Voilà, et j'y suis allée et je l'ai absolument pas dit à mes parents bien sûr. Et donc j'ai réussi le concours d'entrée là et j'étais hyper contente parce que moi je suis complètement nourrie à la radio et plus que la radio, ma famille est France Inter en fait. Je peux pas changer de radio sinon j'ai l'impression qu'ils me voient le faire et qui le prennent hyper mal. Et donc, bah, j'ai eu Philippe Habitboul et Alain Passerelle comme prof, j'étais en transe. Et c'est ce qu'il me fallait, quoi. Et puis, bah, à cette époque-là, je proposais que des sujets sur la bouffe, alors que j'avais jamais pensé être journaliste de bouffe, quoi. Et j'ai dit, bah, t'es con, quoi.
Pourquoi pas?
Bah, attends, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce métier, quoi.
Donc là, tu te dis que tu veux devenir journaliste gastronomique. Tu fais comment? Enfin, tu commences par quoi?
Un stage à Elle à table à l'époque où il y a Nathalie Le Foll et Guillaume Crouzet. Et ensuite, après ce stage, je suis toujours à l'école pendant la deuxième année et je travaille sur un site internet et j'écris un portrait de chef toutes les 15 jours et des news toutes les semaines. Et puis Guillaume Crouzet me présente le Fooding.
Et là,
et c'est parti.
tu co-crées, tu arrives vraiment au début de l'aventure.
Ouais, j'arrive au début, le Fooding est déjà créé. Hein. Mais ouais, on fait la deuxième clôture du Fooding, en fait, qu'on fait ensemble. Et puis oui, là, c'est le tsunami, quoi.
Jusqu'à ce que tu reviennes à Marseille.
Ouais. Et en fait, alors là, j'ai aucune vision. Il y a qu'une seule personne qui connaît les dates de tout ça, c'est Marine Bidot. Mais moi, j'arrive pas à suivre. Mais bon, je suis pas restée si longtemps que ça en même temps. J'ai l'impression que c'est toute ma vie, le Fooding. Donc l'impact est puissant. Mais je crois que je sais pas, je suis restée 3 ans peut-être. Hein.
3 ans à Paris.
Ouais.
Et après
je suis. Oui, après, bien sûr. Ouais.
À Marseille. Ouais. Le soleil te manquait?
Ouais, j'ai toujours su que j'allais rentrer, ouais. Mais Marseille, c'était pas ma ville. Hein.
Oui.
Je l'ai connue en arrivant ici, en venant un week-end, et je me suis dit, ah non, mais je vais rester là. J'ai cherché un appart, j'ai trouvé l'appart, j'ai appelé Alexandre, et je lui ai dit, en fait, je vais habiter là. Et après, je suis remontée seulement 3 jours par semaine.
Et t'as continué, en arrivant ici, t'as continué à être journaliste?
Oui. Ouais. En tout, j'ai dû faire ce métier une dizaine d'années, quoi. Un peu plus, peut-être.
Mais comment t'as basculé?
J'aime énormément Marseille. Et donc de vivre entre Marseille et partir toujours à Paris pour le travail et tout ça, c'était... je me disais, je suis un peu... je regarde un peu le train qui passe ici, quoi. Et je me disais, il y a plein de gens qui critiquent cette ville et tout, qui est absolument critiquable. Et je me disais, moi, je peux rien dire, en même temps, je fais rien pour la ville, quoi. Donc c'est un peu difficile. Et puis je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Mais ça m'est venu, enfin j'avais ce truc de me dire un jour je ferai un truc quand même comme actrice de cette ville.
Lointain, enfin dans un petit coin de ta tête.
Oui, voilà, c'était là.
Truc.
Et puis ça m'est venu vraiment pour, je partais parce que je travaillais pour plusieurs supports, notamment côté sud, et donc on faisait le énième reportage sur le Calisson d'Aix. Et là, sur la route, en allant de Marseille à Aix avec ce soleil magnifique du mois d'octobre, là, que j'adore à 14h, eh ben, je me suis dit, mais attends, je vais ouvrir une épicerie à Noailles. Et c'était en un seul mot. C'est-à-dire que j'aurais pas trouvé de local à Noailles, j'ouvrais pas d'épicerie du tout, hein.
Ah, c'était vraiment à Noailles.
Ah, c'était Noailles, sinon rien, parce que de toute façon, je me disais presque que je vais partir vivre à Tunis, tu vois. mais j'étais pas dans un moment de rupture en me disant, j'en peux plus, je vais tous les tuer, hein, pas du tout. Mais je savais bien que voilà, j'étais au bout d'un truc, quoi. Ouais. Et puis j'avais besoin de rythme.
La petite idée fulgurante qui est venue comme ça, mais qui était la bonne.
Enfin, ah ouais, et puis surtout fallait... le truc très positif. Et maintenant, je me rends compte, parce que j'entends beaucoup d'entrepreneurs parler de ça, c'est que quand t'as une idée qui te semble être bonne, si tu rencontres quelqu'un à qui tu dis ton idée, qui te dit « ah ouais, vas-y !» Oh là, ça te donne l'impulsion et tu dis « attends là, il faut un tout petit truc positif en face de toi pour aller encore plus fort. » Et c'est ce qui s'est passé parce que j'étais avec un photographe avec qui j'avais l'habitude de travailler, Hervé Hoth, qui est arlésien et qui est d'un positif, ce mec. Et je lui ai dit ça en sortant de ma bagnole, on se rejoint sur le parking du Calisson d'Aix, du monde du Calisson. Et je lui dis « dis donc ». Et il me dit « mais vas-y, fais-le !» Ah, j'ai dit « putain, il fallait que je le voie, lui, tiens ».
Là, t'as su que c'était une bonne idée.
Ouais, mais bon, enfin, c'est vrai que tous les matins en me levant, j'avais envie de faire des trucs quand même. Hein. Donc après, la deuxième chose, c'était de convaincre mon mec, qui lui avait l'habitude de m'entendre dire tous les matins un nouveau truc. Et là, j'ai attendu 10 jours pour lui dire. Et il m'a dit « vas-y, on va le trouver local ». Parce que lui aussi, il est amoureux de Noailles. Donc, enfin, de la mixité de Marseille, de la vraie vie de la ville, quoi. Et voilà, et puis après, ça a démarré, quoi.
Il s'est passé combien de temps entre l'idée et l'ouverture ?
Il s'est passé un an et demi, je crois, ouais. Octobre, ça c'était octobre. On a trouvé le local en décembre. Présentation du projet à Marseille Habitat en juin. Démarrage de « On a cassé les murs » en septembre. Et on a ouvert 30 mars 2016.
Moi, je me souviens, on avait parlé à cette époque que tu avais aussi besoin de t'impliquer physiquement aussi dans un projet.
Oui, c'est ça, parce que aussi j'avais besoin de rythme, j'avais besoin de faire des choses. En fait, le métier de journaliste, pour moi, c'est pas assez physique, en fait.
Tu regardes, enfin, tu retranscris, tu regardes ce que les autres font.
Oui,
mais c'est vrai
exactement.
Que t'es moins dans un
j'avais besoin d'être dedans. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce moment de trouver le lieu, les travaux, etc., je suis partie chez Alessandra Pierini, qui est une amie très chère et qui est comme ma sœur, en fait, comme ma grande sœur.
Rap épicerie.
Ouais, que je connais depuis Marseille, en fait, parce qu'elle avait une épicerie à Marseille. Et je lui ai dit, je peux venir faire un stage chez toi pendant une semaine, là, comme ça, juste pour voir si c'est pas une lubie, quoi.
Oui.
Parce que bon, après, quand tu t'engages là-dedans, tu t'arrêtes pas le lendemain, quoi. Et en fait, j'ai fait ça, et pendant ce temps, j'écrivais, bien sûr, mes articles et tout, le soir. Oh là là, mais ces journées, elles étaient exceptionnelles. Et j'ai dit, là, bien sûr que...
T'as su que c'était la bonne idée.
Oui, bah ouais. Mais t'es tellement nourrie par les gens que tu rencontres. C'est incomparable.
Et donc, t'as fait un business plan, tout ça.
Ouais, ça, c'est le côté... bah oui, j'ai inventé un business plan, voilà. Oui.
T'es allé voir les banques, oui. Enfin, tu vois comment on passe de journaliste à entrepreneuse quand même.
Ouais, alors heureusement, en fait, un jour après l'autre et un pas après l'autre, en fait, parce que si on regarde trop
loin,
peut-être. Enfin, oui, si on regarde.
Ça fait peur, non?
Oui, ça peut un peu couper les jambes. Donc non, mais j'ai fait les choses, voilà, hein, tout simplement et. Business plan, je comprenais absolument pas ce que c'était, mais je l'ai quand même fait avec l'aide du comptable, etc. Et puis je l'ai présenté. Et puis voilà, en fait, tout s'apprend. Hein. C'est le gros avantage de, je pense, de tout ça, c'est que dès lors que tu ressens viscéralement que c'est un bon truc pour toi, bah tout s'apprend. Hein. C'est que du boulot.
Et t'arrives à convaincre plus facilement les gens?
À convaincre, ouais, j'étais. De toute façon, j'étais tellement convaincue.
T'étais sûre de toi?
Ah oui. Ah oui. Ouais, j'étais tellement convaincue que bon, le Crédit Coopératif qui a accepté le prêt, j'ai réussi à le convaincre. Bon, après, il fallait d'abord convaincre Marseille Habitat du projet, et puis après la banque, le Crédit Coop, ça s'est bien passé. Bon, après, il y a plein de trucs, c'est les aléas du direct, quoi. Mais de toute façon, ce métier, c'est que ça, donc ça te permet de rentrer dans le vif du sujet. Mais par exemple, en fait, le prêt a été accepté. Génial. Les travaux commencent. Il faut payer les mecs. Tu payes les mecs et en fait là, les chèques, ils passent pas. Ah. Et là, personne te répond à la banque. Ah. Et là, je me dis, je vais plus. En fait, jusqu'à ce qu'on me réponde pas, je vais plus dans l'épicerie. Là, je veux plus le voir celui-là. Hein, si en fait je. Et donc j'ai fait le planton à la banque pendant une journée entière. Jusqu'à ce qu'enfin, parce que mon banquier ne me répondait plus, mais en fait, mon banquier avait fait un burn-out. Lui, il était dans un autre monde, le pauvre. Et en fait, tous les paiements n'étaient pas validés et le prêt, surtout, n'avait jamais été validé.
Ah, sympa.
Oui. Donc ça, c'est voilà. Mais ça, c'est la vraie vie, en fait. C'est pas grave. Hein. C'est...
Ça arrive tous les jours, des choses
oui,
comme ça.
Oui, je pense. Mais surtout,
maintenant.
En fait, ça te rappelle qu'il n'y a que l'humain qui compte. Et donc, je suis allée voir le directeur de la banque. Moi, je pense que j'étais presque en train de pleurer quand même. Et puis voilà, il m'a pris pour une folle. Puis après, il a compris qu'il y avait un fou dans son équipe, le pauvre. Lui aussi était dans la merde. Et puis ils ont relevé le défi parce que aussi, hein, c'est une question ça dans une organisation comme ça. Mais voilà, on a réussi.
Idéal, tu dis que c'est l'extension de ta maison, une salle à manger avec plein de placards. T'avais mis ça dans ton business plan ?
Non. j'ai pas raconté ça. J'ai plus raconté l'histoire de pourquoi faire une telle épicerie ou un tel endroit dans ce quartier-là. Mais oui, c'est ma salle à manger et ma cuisine avec tous mes produits, mais pour nous tous, pour plus de monde.
Est-ce qu'il y a des établissements qui t'avaient inspiré ?
En fait, j'ai pas puisé l'inspiration dans quelque chose. J'ai ouvert l'endroit que j'avais dans ma tête, quoi. Mais c'est pas, je me suis pas dit, tu vois, ça c'est une bonne idée, je pourrais faire comme ça. Non, ça c'est vrai, pas du tout. Mais c'est aussi un art de vivre cette forme d'épicerie là. C'est tout ce qu'on trouve dans toute l'Italie, par exemple. Si je dois comparer, enfin voilà, c'est exactement ça, c'est cette folie du déjeuner où d'un coup il y a une ambiance là qui monte, les banques froides avec les jambons et les fromages, t'as envie de tout goûter. Ouais, ça, c'est ça qui m'inspire, et cette fête.
Et c'est le lieu, t'as eu du mal à le trouver ou
non, je l'ai trouvé tout de suite, j'ai eu trop de chance. J'ai eu vraiment trop de chance. Ouais,
tout était.
Parce que j'étais.
Les éléments étaient réunis.
Oui, voilà. Les planètes, là, qui s'alignent, c'est ça qu'on dit.
Les planètes étaient alignées.
Voilà. Non, mais ouais, j'avais l'habitude de boire mon thé et manger mon beignet tunisien au Carthage. Et je suis en face du Carthage, en fait. C'est les gars du Carthage qui m'ont dit, tu devrais demander, là, c'est fermé depuis 5 ans. Et on a remonté l'info, quoi.
Et le nom, il est venu instinctivement ?
Non, pas du tout. En fait, le nom, c'est... En fait, j'ai beaucoup parlé avec une personne de cette histoire d'épicerie, c'est Iñaki Espitarte, qui est un ami de toujours. Et...
Le chef du Chateaubriand,
ouais.
Pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais...
Ouais. Et en fait, donc on regardait le plan, comment mettre la banque, dans quel sens... est-ce que c'est une bonne idée, la circulation et tout. Bon, ça, c'est des vraies questions qui... Oh, tu te dis, mais est-ce que j'ai bon là ou pas ? Et donc, on parlait beaucoup
plus,
de ça.
Tu restes avec ça après, en
ah
plus,
bah oui, là, tu changes plus jamais rien.
Comme
là,
quand c'est... tu mets tes interrupteurs chez toi.
Exactement.
Tu dois définir, t'habites pas dedans.
Et c'est ça. Et tu sais pas du tout
où est-ce que
si
je vais
c'était
allumer
la bonne
lumière.
intuition, quoi. Et donc on parlait beaucoup de ça et puis une fois il me raconte le magasin de sa grand-mère à Hendaye qui vendait des vêtements de travail parce qu'on disait ça serait bien d'avoir une banque face à soi et de prendre les produits derrière pour les vendre, les poser, les j'ai pas cet espace là parce qu'il y a toutes les normes etc qui font que t'as besoin d'une largeur donc j'ai pas cet espace là pour le faire mais donc on parlait vachement de ça. Et il me dit oui, ma grand-mère, elle avait un magasin de vêtements qui s'appelait l'Idéal. Bon, j'ai pas du tout tilté au départ, quoi. C'est resté. Je n'ai jamais pu me séparer de ce mot. Et un mois ou deux mois avant de voyager, je l'ai appelé. J'ai dit, bon, Iñaki, je peux l'appeler l'idéal. J'arrive pas à m'en sortir ton mot, là. Il me dit, allez, ouais, vas-y.
En même temps, voilà. Il est parfait.
Épicerie l'idéal, mais c'est dingue.
Il est parfait.
Mais il est plus que parfait parce qu'en fait, bon, déjà, c'est un truc qui, bah, tu peux te dire que dans 50 ans, si tu reviens, ça peut toujours s'appeler l'épicerie l'idéal. C'est à mes enfants ou aux enfants de toute mon équipe, bah, c'est voilà. Mais aussi, parce que bizarrement, le poids des mots fait qu'on a tous trouvé notre idéal dans l'idéal.
Oui, c'est l'idéal un peu de tout le monde.
Oh, mais exactement. Ça, c'est fou. Parce que nous tous, là, à l'équipe, on est 7. On est chacun nous-mêmes dans l'histoire de l'idéal. On ajoute notre petite âme dans cette histoire. Mais on a trouvé notre idéal, quoi. C'est impressionnant parce que tu te dis, bah, tu vois, il y a une force au-delà de ce que tu peux créer, en fait. Ça, c'est magique.
T'es devenu chef de file aussi, enfin, chef d'orchestre de ce groupe que ouais. t'as créé.
Chef d'orchestre, ouais. Mais au départ, je voulais pas l'être trop parce que je suis, bon, déjà, je laisse chacun faire ce qu'il est exactement et je donne pas de direction parce que je trouve que c'est le plus important. Bon, on a démarré, on était 3, on est 7, donc j'ai pas cherché les personnes qui sont aujourd'hui à l'épicerie, elles sont arrivées. Donc tout ça fait que bah t'arrives, tu veux travailler là, j'ai la possibilité de t'embaucher parce qu'on fait plus de monde ou parce que ça grossit, c'est génial. Maintenant, tu préfères la cuisine, l'épicerie, le vin, le service. Il se passe tellement de choses dans une journée dans une épicerie que c'est à toi de savoir où t'es le mieux. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour chacun. Donc,
Oui, c'est assez naturel.
Ouais. Et finalement, ben oui, je suis chef d'orchestre de cette bande. Je viens avec ma baguette magique tous les matins, c'est sûr. En plus, je suis surexcitée quand même comme personne. Là, je fais la calme, mais c'est pas vrai. Et donc voilà. Donc j'arrive là, par exemple, ce matin, j'ai livré. Je suis partie hier soir. Je suis arrivée ce matin avec mes cerises, mes fraises, mes asperges et mes petits artichauts violets. Ah ben, je suis déjà en bombe, comme on dit ici. Hein. C'est bon.
Et pour revenir sur cet emplacement, tu voulais t'installer là et tu sentais le potentiel parce qu'aujourd'hui, t'as attiré à côté de toi. La mercerie, il y a Ella qui a ouvert le IMA.
Non, mais je sentais pas le potentiel de l'impact sur d'autres. Je pense que c'est l'évidence, Noailles, en fait. Si tu veux faire de la cuisine, si tu veux parler de produits et de goût et de comme ça sent bon à midi, mais il faut venir à Noailles, c'est tout.
C'est le berceau.
Non, mais Noailles, ça cuisine de partout, quoi. Moi, c'est l'endroit où je vais pour faire mes courses et quand j'ai faim, je vais là. Et en plus, c'est vivant. Les gens passent. Il y a du monde. C'est piéton. Même si les bagnoles peuvent plus ou moins passer, il y a plus de piétons que de voitures. Donc, c'est ça vit. Et puis, les gens se regardent dans les yeux et disent bonjour. Ça change tout. Ça, c'était l'évidence. Quand t'aimes manger, ben, c'est là que tu vas, quoi. Tu vas pas aller te perdre dans une rue. Moi, ça me gonfle, ça. J'ai besoin qu'on soit tous dans le même truc. Donc, c'est encore plus magique que la mercerie soit arrivée, que l'extraordinaire est là, soit arrivé. Ça, c'est le rêve, ça.
Et tu te souviens de l'ouverture des premiers jours?
Là, j'ai revu des photos déjà de l'épicerie au départ. Ça n'a plus rien à voir. Ça, c'est bizarre. Mais
pourquoi ça a grandi?
Bah parce qu'en fait au départ tu mets des étagères à certains endroits puis t'en rajoutes de partout jusqu'au plafond et puis t'avais pensé que t'allais mettre un miroir là, mais en fait à ce miroir là tu dois absolument l'enlever parce qu'il faut que tu mettes les corbeilles à pain et tout ça tu peux le faire seulement quand t'es rentré dans le travail et tout devient fonctionnel, tu vois. Et ça, mon père me le disait, hein, parce que j'avais un peu je stressais un peu avant l'ouverture. Je disais, mais attends, est-ce que je mets ça là, la machine à glaçons, je la mets plutôt là ou là? Non, mais la machine à glaçons, tu pourras plus la bouger. Mais par contre, où est-ce que tu mets tes verres à pastis? Ça, tu peux le savoir seulement quand t'as commencé à bosser. et donc voilà, il y a plein de choses qui sont rajoutées et ça change tout. C'est plus si si parfait. Et ça, c'est génial parce que c'est beaucoup plus vivant.
T'étais stressée quand t'as commencé ou tu, finalement, tu t'es sentie soulagée d'ouvrir et d'être à ta place?
Ce qui fait le plus peur, c'est l'avant, en fait. Dès lors que t'as ouvert la porte, de toute façon, c'est plus toi qui maîtrises toute la situation. Et ça, c'est génial. Parce que moi, j'étais une personne qui vivait beaucoup par anticipation avant. Là, tu ne peux pas. Et donc, c'est un fait. Tu ouvres le matin, tu sais pas si tu vas avoir un dégât des eaux, il te manque une personne au boulot, peut-être que tu vas avoir trois connards, à l'horreur, mais faudra quand même les gérer. Enfin, tout ça, ben, c'est du live, quoi. Et donc, ça t'enlève tous les stress. Le plus gros stress, c'est les travaux, en fait, hein. C'est toute cette organisation, tout ça, tout ce montage. D'ailleurs, c'est pour ça que je ferme plus. Parce que même fermer, la première année, on a fermé trois semaines en août. Et réouvrir, c'était comme une première ouverture. Non, plus jamais. Je ferme plus.
Et t'as pas eu la tentation de te mettre au fourneau?
L'inox ne me convient pas. Les cuisines professionnelles ne me conviennent absolument pas. Je sais pas cuisiner dans une cuisine tout en inox. En fait, c'est pas moi. Je suis vraiment la descendante de ma grand-mère. Faut que je cuisine dans une toute petite cuisine de maison. Donc, je peux faire plein de choses à la banque. D'ailleurs, moi, mon poste, si je dois dire que j'ai un poste, en tout cas, je fais toujours l'envoi du service depuis la banque froide, là où on envoie certaines entrées et certaines choses qu'on cuisine là face aux clients ou qu'on prépare. Mais voilà, ça, c'est mon poste, ça. Mais je peux pas aller en cuisine, tout ça. Aurélien, d'ailleurs, il m'en a jamais parlé. Je crois qu'il sait très bien que non, je peux pas. Oh, des bagues gastro, des trucs comme ça, je sais pas. Moi, je sais faire pour 8.
Donc la carte, c'est... Est-ce que c'est toi? Parce qu'il y a un côté... Enfin, on a l'impression que c'est toi. En tout cas, il y a un côté émotionnel et réconfortant. On a l'impression que c'est...
Bah, en fait, l'histoire de ces cartes-là... Bon, déjà, on verse tous de nous dans la cuisine du jour. De nous tous, on est 7 et on rajoute tous quelque chose, mais surtout la cuisine. Moi, quand j'ai ouvert l'épicerie, je pensais pas qu'on ferait la restauration vraiment. Je savais que j'allais faire du brut, des bons sandwichs parce que j'aime ça et une salade de petits pois avec de la feta et des raisins de Corinthe, quoi.
Tu pensais pas que ça prendrait autant de place?
Mais c'est pas ça, c'est que j'ai fait construire une cuisine professionnelle avec un four pro et tout ce qu'il faut, en me disant si ma mère vient cuisiner un risotto et qu'il n'y a pas le matos, elle va me tuer. Et j'avais pas du tout envie de ça. Donc j'ai dit, prenons les devants, je le mets sur le business plan. Et puis j'ai rencontré Aurélien 15 jours avant l'ouverture. Et je cherchais pas de chef, vraiment. Hein. On s'est rencontrés presque... pas par hasard, parce que c'est quelqu'un qui nous a présenté, mais je me suis dit, oh bah oui, ça serait peut-être bien d'avoir un chef quand même. Un cuisinier, quoi. Et en fait, ce rendez-vous, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que on a parlé de cuisine, mais on a surtout parlé de livres de cuisine et pas de livres de recettes. Et là, je me suis dit, oh merde. Ça, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un avec qui je suis autant sur la même longueur d'onde. Et ben, ça a pas loupé. C'est-à-dire, moi, je lui ai dit, écoute, tu vois, on va faire hyper simple. On est vraiment sur le produit. C'est simple, c'est brut. Ah ben non, au bout d'une semaine, lui, il était déjà la tête dedans, mais comme il faut, quoi. Et donc, le truc magique, Aurélien, c'est quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup, qui parle pas beaucoup, même s'il parle de plus en plus et tout, mais c'est pas quelqu'un qui va te raconter, oui, j'ai pensé à ça. Pas du tout.
Il fait.
Ouais. Il fait et il te fait goûter et surtout, il te fait des surprises tout le temps, en fait.
T'as trouvé ton chef idéal.
Non, mais c'est dingue, parce que là, tu vois, quand je t'en parle, ça m'émeut trop, parce que le premier anniversaire que j'ai fêté à l'idéal, donc mon anniversaire à moi, il m'a fait un pâté en croûte géant. Donc, en plus, c'est pas du tout le mec qui va te faire... qui va faire tout un décorum pour faire le truc. À la fin du service, un samedi où on s'était pris une bastos, mais comme il faut, on avait vraiment eu beaucoup de monde et c'était fou. Il ouvre le rideau de la cuisine, il me dit, Julia, viens voir. Il ouvre le rideau de la cuisine et il me dit, bon anniversaire. Et c'était la première fois de sa vie qu'il faisait un pâté en croûte.
Oh, trop mignon.
Ouais, mais en plus d'être trop mignon, c'est-à-dire qu'évidemment, on l'a partagé avec toute la salle et que c'est peut-être le meilleur pâté en croûte que j'ai mangé dans ma vie et que maintenant, on peut plus ne pas le faire. Moi, je suis née en fin novembre et tout le mois de décembre, il faut le pâté en croûte d'Aurélien, sinon les clients, ils pètent un câble. Voilà, c'est lui, ça. Mais c'est lui, c'est-à-dire que il a un rapport au produit un peu, je sais pas, physique, quoi. C'est
comme toi.
Peut-être, ouais. Non, mais c'est fou parce qu'on se parle jamais de « il faudrait faire tel truc ». On parle tout le temps de plein de goûts, de plein de choses qu'on a mangées ou je sais pas quoi, ou de produits qu'on a envie d'avoir parce que c'est la saison ou machin. On reçoit... Enfin, moi, je suis une acheteuse effrénée de bouquins de cuisine, donc on a toujours plein de trucs à lire et tout ça. Et on partage ça. Et puis, d'un coup, c'est surprise, quoi. Il me fait le truc dont je rêvais. Que j'en ai parlé il y a 15 jours et voilà. Et il est très, très, très fort.
Et du coup, c'était important de laisser cette place aux gens qui arrivent dans ton business, finalement.
Mais c'est
et
vital.
Il s'est construit...
Mais c'est ça qui fait tout, en fait. C'est ça qui fait l'idéal. Parce que tout le monde dit, au-delà de la cuisine, au-delà des produits, au-delà de tout ça, c'est un lieu. C'est un lieu avec des vrais gens. On se permet d'être 7, ce qui est assez incroyable. Mais le service, il est génial parce que on se prend le jus comme tout le monde dans la restauration. Mais on laisse jamais un client sur le carreau, quoi. Ça, c'est la base. Moi, je supporte pas le service où on te regarde pas dans les yeux parce que t'es à la bourre. Mais non. Jamais. Je déteste ça. Et ben voilà. Là, c'est interdit chez nous, mais on n'a pas besoin de se le dire entre nous, hein. Tout ça, c'est pas... J'ai pas écrit un texte pour dire l'idéal, ce
les
sera
valeurs,
comme ça. On est
l'idéal.
Il y a un truc. Et c'est pas moi. Hein. C'est que, voilà, on s'est tous rencontrés.
Et tu me disais, tu me confiais hier que t'avais de la chance parce que t'avais ton équipe qui était là depuis le début.
Ouais.
C'est, comment tu fais pour les garder?
Bah, parce qu'on vit, on vit l'adrénaline ensemble, on a besoin de ça tous pour voilà, c'est ça notre rêve. Après techniquement parlant, je suis dans les clous, quoi.
T'es au bon endroit au bon moment.
Oui, et puis surtout enfin on est clairs tous entre nous, voilà, on fait les il y a des horaires, il y a tout ça. J'ai pas voulu faire un restaurant épicerie ou une épicerie restaurant ou je sais pas quoi pour faire 48 heures par jour là. Je peux pas. J'ai vu mes parents faire ça toute leur vie, c'est pas mon idéal de vie, ça. Voilà. Donc je veux que tout le monde soit heureux, je veux que tout le monde puisse prendre les vacances quand ils veulent les prendre. Tout ça, c'est je veux qu'on soit libre en fait pour arriver avec que le plaisir. C'est possible, hein.
Ça marche.
Oui, mais c'est possible parce que c'est la base de l'histoire. Si tu, enfin, t'imagines, tu te lèves le matin et t'es crevé et t'en peux plus et non, c'est pas possible ça. Tu peux rien donner, t'as plus rien, t'as plus de jus. Tout est basé sur le jus dans ce métier. Donc,
c'est vrai.
On a voulu par exemple ouvrir le dimanche midi, le dimanche matin, là, le dimanche midi, l'été dernier. Et on s'est dit, on va le faire maintenant, on va ouvrir le dimanche. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait, sur le papier, il faut tourner, il faut que les équipes tournent, on peut pas être tous là. Parce que sinon, t'es dans les alléluia du dépassement au-delà du réel. Et alors, donc, tu fonctionnes plus à 7, tu fonctionnes à 4, plus... Et ça, nous, ça nous coupe l'énergie.
C'était pas possible.
Non, parce que nous, on a besoin d'être du mardi au samedi soir
tous ensemble.
Et c'est la montée, en fait, la montée en puissance. Le mardi, ça commence, on revient... On a les produits qui arrivent. Mercredi, vendredi, énorme montée. Vendredi, c'est sublime. Et samedi, c'est le Graal, quoi. Mais tout ça, on le vit vraiment comme ça.
Et vous avez besoin de le vivre ensemble.
Ouais. Ouais, ouais. On
l'a
ressenti.
Mais
sans
danse,
pour autant
peu...
que ça soit, on n'est pas dans un, on n'est pas, voilà, on n'habite pas tous ensemble dans la même maison, hein. On vit un truc d'équipe, quoi, de match. C'est un match, en fait, c'est ça. Ou c'est peut-être un groupe de musique.
Une danse.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui guide tes envies à l'idéal, enfin, ton envie de travailler, ton envie de tout?
C'est les sensations, quoi. Tu vois, je me lève le matin avec des envies de produits et de... C'est ce qui dessine l'idéal du jour. Du moins, mais c'est vrai que je refais entièrement l'idéal chaque jour. C'est-à-dire l'idéal est un autre idéal chaque jour que Dieu fait.
Et il évolue.
Pour moi, je me lève le matin, là, enfin là, je vois, je suis passée à l'épicerie, on a reçu les sirops d'une productrice malgache, magnifique, ça fait ma journée, hein, c'est... Ouf. Ah, personne va y échapper aujourd'hui à ce sirop-là. C'est, voilà, c'est ça.
C'est partager, ce qui... partager tes sensations et tes coups de cœur, ton amour pour ces produits. Mmh.
Mais vraiment comme on le ferait avec des amis, quoi. C'est la vie normale. T'arrives, en plus, t'as l'impression que c'est Noël tous les jours puisque tu reçois des produits tout le temps. T'as envie que de ça, quoi.
C'est ça, le cœur aussi. C'est ton amour des produits.
Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est, oui, ça, c'est une fête. Tu vois, je sais déjà là que j'ai enfin réussi à avoir la Trina que je voulais, la Tahini que je voulais. Ça fait 2 ans que j'avais.
Ça
y est, je l'ai. Ouais.
2 ans de recherche.
Ça y est, j'ai trouvé le revendeur enfin en Europe. Enfin, une histoire de dingue. Mais ça y est, je l'ai, quoi.
C'est quoi l'histoire de ce produit?
Bah, en fait, j'ai goûté il y a 2 ans à Slow Food. Il y avait un pavillon Israël. J'ai goûté cette marque-là. C'était vraiment délicieux. Et puis après, j'ai essayé de remonter le filon et ils vendaient pas encore en Europe. C'était compliqué. Je pouvais pas faire venir 12 000 palettes d'Israël. Hein. De toute façon, j'ai pas la place, quoi. Et donc, c'est un travail de longue haleine de réussir à les faire venir, d'attendre qu'ils soient vendus en Europe. J'ai trouvé le revendeur en Belgique. Voilà, ça y est, ça arrive, quoi. Oh, mais là, il y a 2 jours,
ça va être la fête, là, l'idéal.
Oui, je suis très contente, très 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 contente.
Et ça, c'est le cœur de ton métier aujourd'hui aussi, le sourcer les produits.
Ah ouais, ça c'est génial ça.
C'est ce que tu kiffes.
Mais en fait, ça c'est donc, oui, je me rends compte que c'est ce que j'ai toujours aimé dans le métier, quoi. Rencontrer les mecs qui font les produits, goûter des nouveaux trucs. Oh, ah ouais, ça m'habite complètement. Hein. Oh là là. Et en fait, il faut toujours que je fasse rentrer des choses. C'est ça qui me met en joie. Et surtout parce qu'en plus, comme j'ai du répondant dans ma propre équipe, je ramène des trucs et je dis, bon les gars, j'ai fait rentrer ça et je leur raconte où on va ensemble déguster. Et ça, c'est... Voilà, j'amène les trucs à Aurélien et à Clarisse. Et ils sont hyper contents et ça, c'est super.
On va passer à l'aller-retour.
Oui.
Ton âge, Julia?
41 ans.
Ton signe astrologique?
Sagittaire.
Ton plat signature?
Mon plat signature ou mon plat de ma vie?
Non, ton plat signature. Que tu fais à tes amis, que tu fais si on vient manger chez toi, et quoi tu nous reçois?
Des pâtes à la poutarde, je dirais.
Et ton plat préféré?
La poularde en demi-deuil.
Le chef que tu admires le plus?
Fulvio Pierangelini.
Ton ingrédient préféré?
Les anchois.
Et ton ingrédient détesté?
L'estragon, mais ça y est, je l'aime plus qu'avant.
Ton ustensile fétiche?
La marise.
Ton dernier meilleur repas?
Chez ma sœur hier soir. Exceptionnel.
Faut vraiment que j'y aille. Quel est l'endroit que tu aurais aimé ouvrir?
La Mérinda, à Nice.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
Bah, qu'on est toujours bien à l'idéal, quoi. Qu'on est toujours bien reçu, tout ça. Que c'est bon, que c'est joyeux, c'est vivant. Enfin voilà, on me dit ça tous les jours, j'ai de la chance, punaise.
Oh. La pire critique?
Me dis pas que je les entends pas, les critiques, t'imagines? Je m'en souviens même pas. Non.
C'est bien, c'est qu'il n'y en a pas une qui t'a marqué.
Non, non. De toute façon, les gens négatifs, je les écoute pas.
Tu te sens restauratrice aujourd'hui?
Non.
Épicière?
Oui.
C'est comme ça que tu te présentes, qu'on te demande?
Oui, épicière, c'est ce que je mets sur les fiches de renseignement de l'école de mes enfants.
C'est un révélateur.
Ah ouais, c'est ça.
T'es quel genre d'épicière?
Bah, je suis genre... je suis claire. On a... En tant que manager, quoi, je suis claire, on a des choses à faire, on les fait, mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que tu n'as pas fait ta liste, quoi. Ça, c'est la base de mon travail. En revanche, voilà. Le plus important, c'est le client, en fait. Ça, c'est mon management. Mais je ne répète jamais rien, moi. Mais voilà, ça, c'est l'histoire de cette épicerie et de l'équipe, c'est que le plus important, c'est le client.
Ça a été dur de devenir manager? Après avoir travaillé comme pigiste, tu vois, toute seule chez toi.
Ouais, j'ai eu un temps où j'étais pas très à l'aise avec ça au début. Oui. Bon, maintenant ça va très bien. En fait, faut faire simple, hein, faut faire juste comme on est, c'est comme tout. Si tu commences à te poser trop de questions, à essayer de dire les choses d'une certaine manière, t'es déjà dans la posture, ça marche pas. Faut être simple.
Et tu disais que tu passes beaucoup de temps à sourcer les produits aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu, enfin, c'est une petite part de ton job,
c'est une grosse part. Oui, c'est une petite part. Il y a beaucoup de. Enfin, c'est une moyenne part, quoi, disons. C'est la plus jolie part. Avec aussi le service, par exemple, j'arrive pas à rater le service. Si je suis à Marseille et je me dis oh là là, il faut que je fasse toute cette paperasse et tout, je peux pas rater le service, c'est le meilleur moment. Mais
t'as besoin de vivre cette adrénaline.
Oui, j'arrive pas du tout. Même si l'équipe me dit allez vas-y, va avance sur les choses, et ben je dis non mais je reste finalement. Et ouais. Mais bon, oui, ce métier-là, et déjà le métier de restaurateur est fait de plein de petites parts de choses, et qui plus est épicier, restaurateur, bon là tu t'en rajoutes une bonne dose quoi. Mais c'est bien.
C'est quoi ta plus grande fierté professionnelle ?
Ah bah c'est celle-là, hein. C'est de A à Z, tout ce qui représente l'idéal, tout ce qu'on fait ensemble, cette liberté aussi, parce que ça peut s'arrêter demain, parce que chaque membre de l'équipe, je leur ai toujours dit, peut partir demain et j'en veux à personne. Voilà, la liberté quoi, de vivre un truc ensemble et puis ça continue, ça sera autre chose, enfin tout ça. Ça, c'est, ouais. Penser comme ça, être libre comme ça, pas avoir peur du futur, c'est génial. Parce que on sait pas, hein, je vais peut-être faire une rencontre demain à l'épicerie. On sait pas du tout ce qui va se passer dans cette épicerie, quoi. C'est ça qui est génial. C'est magique.
Est-ce qu'il y a déjà des couples qui ont été formés à l'épicerie?
Non.
Des bébés épicerie.
Non. Pas encore.
Bimama, je crois qu'il revendiquait.
Non, pas chez nous.
Des couples Bimama.
Mais le truc non, le truc joyeux, c'est le champ des possibles qu'offre ce lieu en fait. Ce qu'on a fait là, c'est que si on a envie de faire boulangerie le samedi, on fera boulangerie le samedi. Et si un jour je sors la rôtissoire dans la rue, faudra pas. Ça arrivera un de ces quatre quoi. Je vais tout faire là-dedans. Tout ce que je rêve de faire, je vais le faire.
Ça se construit au fur et à mesure, comme
oui,
tu
oui,
dis.
Oui, bah, c'est les envies,
possibles.
Voilà, tous les jours. Quand Dominique Lestanc est venu manger à l'épicerie il y a 3 mois et que j'aime tellement ce mec et qu'à la fin du repas je m'assois et je lui dis oh, j'aimerais bien que tu viennes faire les pâtes aux pièces tout à l'épicerie. Il me dit bah, quand tu veux.
Le rêve.
Voilà. Tout est, voilà, c'est que de la surprise.
Qu'est-ce qui fait le succès de l'idéal à ton avis?
Ben la sincérité, voilà. Il y a pas de marketing, il y a pas de brainstorming, il y a pas de tout ça quoi.
Et le fait d'être passé de l'autre côté du comptoir, comme on disait au début, tu te retrouves jugé par chaque client. C'est ce que tu le vis difficilement ou
pas du tout. Parce que comme je dis toujours aux clients, en fait, on fait vraiment de la cuisine. Donc si un jour c'est trop salé, c'est pas bon, c'est trop gras, c'est comme t'aimes pas, il y a une règle chez moi. Parce que je pense pas business comme ça. Si t'aimes pas, tu me le dis au début de l'assiette, s'il te plaît. Comme ça, on change. Et tu payes pas. Voilà. C'est simple. Ça change tout. Parce que je vais pas me prendre l'angoisse de... Ah, je trouve que vraiment, ce plat n'est pas à la hauteur. Je trouve qu'il n'est pas intéressant. J'en ai rien à foutre de ces conneries.
J'ai tout mangé, mais
non, mais
je fais.
On est tous là, 7 personnes à se lever le matin pour faire plaisir aux gens qui viennent manger. Si t'as pas de plaisir, tu le dis. Et ça c'est la marque de femme. Donc non, au contraire. Non, je suis très tranquille avec ça. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Si ça te convient pas, ça te convient pas. Je t'oblige pas à venir.
Est-ce voilà. que t'as besoin Est-ce que, enfin, aussi t'es sûr aussi de ce que t'envoies Enfin.
Bah oui, on est d'accord. On est content.
Satisfaite en tout cas.
Mais t'imagines bien que sur 8 choses que tu sors par jour, il peut arriver que tu aies l'intention de faire un truc qui se transforme en autre chose parce que c'était pas exactement comme ça et que finalement, bon bah ça c'est bien, mais ça aurait pu être mieux et puis tous les jours ça pourrait être mieux. Enfin là, je suis avec une équipe dans le genre insatisfait. Tu vois, il faut toujours faire mieux. Mais bah, c'est la vie, ça. Si tu roules pas avec une carte que tu maîtrises à 2000% et que tu fais pour une semaine ou un mois, c'est comme ça. Il y a des ratés.
Oui, vous changez tous les jours la carte.
Tous les jours entièrement, ouais.
Mais le fait aussi d'être, tu sais ce que t'envoies quand même.
Mais bien sûr, mais surtout c'est même pas je sais ce que j'envoie, c'est que Aurélien il sait ce qu'il cuisine.
Aurélien
quoi.
Il sait et c'est
Aurélien,
rassurant.
Aurélien c'est un malade de l'assaisonnement. C'est le mec, la gourmandise, il a au bout des doigts, quoi. Tu tombes dans une salade de lentilles au guanciale qu'il fait, avec les lentilles d'ombry, mais t'es pourtant sur de la lentille et de la guanciale, quoi. Hein? C'est plus simple que ça, tu meurs. Mais on le sait tous que c'est l'assaisonnement qui fait la vie. C'est la vie! Voilà. Et lui, il a le don. Donc, il te tue.
Aujourd'hui, tu t'es remise à écrire ta newsletter, notamment.
Ouais.
Avis aux auditeurs qui voudraient s'abonner, parce que je la trouve vraiment trop bien. On a l'impression de t'écouter parler des produits. Quand on n'est pas à Marseille, c'est chouette.
Ah,
on
merci.
A direct envie de prendre un aller-retour, enfin un aller simple plutôt, pour l'idéal, venir manger, tout ça. Ça te manquait, l'écriture ?
Oui, ça me manquait... ouais, j'aime trop écrire, quoi. Et puis là, écrire comme ça, c'est vraiment le plaisir ultime. T'écris aussi long que tu veux et en plus, c'est que du partage.
Oh, et tu racontes des histoires, oui. Tu partages et tu racontes.
Ouais, voilà ce que je lis, les recettes, les choses, les produits qui arrivent, une rencontre, enfin tout. J'ai pas de filtre, en fait, hein. Non, ça, c'est génial. Et je me régale et ça me fait un truc à l'intérieur, j'en ai vraiment besoin, quoi. C'est ouais.
Et ça se construit, ça fait aussi partie du truc où tu disais si j'ai envie de faire ça, je le fais. Mmh. Ça se construit.
Oui,
petit
je l'ai
à
pas.
Petit.
Ben encore une fois, je l'ai pas prémédité cette affaire. J'avais envie d'écrire à mes clients parce que souvent quand je suis à la caisse, donc je suis la dernière personne qui voit avant de quitter l'idéal, même si la caisse est tout au bout de l'épicerie. Et souvent, on parle, voilà, de produits, de recettes, de choses, et je leur dis, mais, et on me demande de chercher des choses sur des produits, ça c'est le truc génial du lien avec les clients. Et donc, j'ai eu envie de leur écrire à eux. Mais ça n'a rien de, c'est un lien tout simple, quoi, ça n'a rien de commerçant. Voilà, c'est que pour ça que j'ai fait l'épicerie, en fait. C'est pour ça.
Oui, c'est pour te faire plaisir à toi avant tout.
Non, mais c'est surtout pour vivre ensemble. Ouais.
Oui, oui.
C'est ça qui est génial. Et donc voilà, quand j'ai des clients qui me disent « Oh, j'ai goûté tel produit, ou je cherche ça, si vous le trouvez, appelez-moi. » Moi, j'ai des papiers dans tout mon bureau avec « Appelez-moi pour tel truc, et puis j'ai ma liste de choses à trouver, quoi. » Donc après voilà, ou est-ce qu'on pourrait avoir la recette du cookie boum boum ou du houmous magique ou du donc j'ai commencé comme ça, en fait, à envoyer les recettes qu'on me demandait, de l'ossobuco, et puis petit à petit quand j'avais envie de raconter des trucs, je le racontais, comme le livre que je viens de lire là d'un chef italien là qui a 27-28 ans là, Tommaso Melilli.
Spaghetti Wars.
Ouais. Je vais jamais m'en remettre de ce bouquin. Hein. Donc là, j'ai appelé la maison d'édition. J'ai dit, il m'en faut 20 parce que j'en ai parlé dans ma dernière petite lettre là. Et tous les clients sont venus en me demandant ce livre. Donc voilà, ça a partagé ça, c'est énorme.
C'est quoi la prochaine étape, un livre, l'idéal?
Non. mais c'est les produits de l'idéal, ouais.
Ah,
ouais, parce que
tu travailles dessus.
Comme on est très dans l'assaisonnement et le condiment et tout ça, et qu'on vend nos assaisonnements aussi en frais dans la partie, on va dire traiteur, quoi. On travaille à faire nos bocaux de condiments, de la bonne sauce tomate, du condiment citron ail qu'on a appelé condiment sublime parce que bon, il porte bien son nom, hein, j'ai pas dû chercher loin. Et voilà, et on va le faire, on commence à Syracuse, ouais, la production.
Ah, génial. Et ça sera lancé quand?
Normalement, en juin, on devrait avoir les premiers pots, là.
Trop bien.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Bon, voilà, on arrive à la fin. Et j'ai pour habitude de demander une recette simple à faire à la maison. Qu'est-ce que tu nous recommandes ?
Moi, j'aime les légumes au four, en fait. Plus simple que ça, tu meurs. Donc, n'importe quel légume. Mais là, les courgettes, maintenant, avec de l'ail en chemise au four à 180 pendant 45 minutes, ça fait l'affaire. Plutôt couper dans le sens de la longueur. Et en ce moment aussi, je mange que de la feta et des raisins de Corinthe. Est-ce qu'il y a meilleur que les raisins de Corinthe, finalement, en termes de raisins ? Non, mais c'est une vraie question. Ben voilà, ça, c'est ma drogue du moment. J'essaie d'arrêter un peu la tahine. Ah, oui, courgette, ail, huile d'olive. Ah, et la menthe séchée, un peu citronnée. Ça, c'est bon. Voilà, c'est simple.
Tout en même temps dans l'assiette.
Oui, on sort les courgettes, on effrite la feta, on met un peu de raisin qu'on a un peu fait tremper avant, c'est encore meilleur. Et puis, on peut mettre un peu des amandes.
C'est dommage, les auditeurs ne peuvent pas voir, tu fais des gestes en même temps, c'est trop drôle.
Ouais, ça c'est bien. Cuisine. Ou alors, s'il n'y a pas tout ça, du pain gratté, ça ira très bien avec de l'ail, hein, et de l'huile d'olive.
La chapelure, c'est
la vie.
C'est vrai.
La chapelure
dans les pâtes, c'est trop bon.
Dans les linguines, c'est mortel. Avec un anchois. J'ai faim.
Moi aussi. Merci, Julia.
Et merci à toi.
Vous venez d'écouter le 10e épisode de la saison 3 avec Julia Samut. Pour goûter ces délicieuses trouvailles, rendez-vous à l'épicerie L'Idéal dans le quartier Noailles à Marseille. Attention, c'est addictif. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com. Pour ceux qui découvrent le podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli ou sur Instagram pour ne manquer aucun épisode. Cet épisode a été réalisé par Studio Ochenta, musique par Santiago Walsh. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.